Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grand Mot, dans Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Les jeunes Suédois nés avant l'an 2000 ont dû pousser un ouf de soulagement le mois dernier lorsque leur gouvernement a annoncé le rétablissement du service militaire obligatoire. Ils ne seront pas concernés par cette mesure. Pour tous les autres, c'est le retour de la conscription, 7 ans seulement après sa suppression. Garçons et filles sont concernés. À l'issue d'un processus de sélection, 4000 d'entre eux seront appelés sous les drapeaux chaque année à partir du 1er janvier prochain. La Suède justifie sa décision au regard de la situation sécuritaire régionale. Une instabilité liée aux projets expansionnistes de la Russie. Cette décision suédoise de rétablir la conscription est plutôt à contre-courant dans un monde de professionnalisation des armées. La France a fait le choix d'en finir avec le service militaire obligatoire en 1996 et à vrai dire, personne ne songe sérieusement à le réactiver sous la forme qui était la sienne autrefois. Néanmoins, le contexte des années 2010 est différent de celui des années 90. Les attentats de 2015 et 2016 ont changé la donne. L'armée redevient centrale comme lieu d'apprentissage en matière de défense, mais aussi d'éducation à la citoyenneté et au fameux vivre ensemble. Alors faut-il rétablir un service militaire obligatoire ? Eh bien voilà la question que nous allons poser ce soir et nous allons la poser dans le cadre d'une semaine un petit peu spéciale avant le premier tour de la présidentielle qui sera consacrée jusqu'à vendredi à des débats de société, débats pas forcément toujours très neufs mais qui sont évoqués ou qui l'ont été au cours de la campagne par les candidats, la fin de vie, l'âge de départ à la retraite, les drogues douces et donc ce soir le service militaire ou le service national, on va voir. Et pour en discuter, deux invités, Bertrand Soublet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien général de gendarmerie, candidat aux législatives dans les Hauts-de-Seine, candidat sans étiquette. Vous venez de publier aux éditions de l'Observatoire « Sans autorité, quelle liberté ?» Et puis vous aviez co-signé, il y a quelques semaines de cela, dans Libération, une tribune, « Le service national universel, socle d'une conscience nationale ». Vous l'aviez co-signé avec des soutiens d'Emmanuel Macron, mais je le précise, vous ne soutenez pas Emmanuel Macron, sans quoi d'ailleurs on n'aurait pas pu vous inviter ce soir, étant donné les règles du CSA. Et c'était notamment suite à cette tribune et suite à la proposition autour du service national obligatoire que Bénédicte Chéron avait réagi dans un article pour l'excellent site The Conversation. Bonsoir,
bonsoir.
Bénédicte Chéron. Vous êtes historienne, vous enseignez à l'Institut catholique de Paris, vous êtes chercheuse au CIRIS. Dans la division armée, guerre, médias et société. Enfin, je ne sais pas exactement si c'est comme ça qu'il faut le présenter.
Je suis chercheur partenaire au CIRIS et je travaille effectivement sur les relations armée-société et guerre-société.
Voilà, je renvoie à l'article donc, que j'évoquais. Le service militaire, objet de fantasmes politiques. Vous avez fait le service militaire, l'un et l'autre, Bénédicte Chéron ?
Ah non, moi je suis née en 79, donc trop vieille pour avoir été appelée en tant que fille sous les drapeaux pour la journée défense citoyenneté, et trop jeune pour avoir fait... enfin bref, je m'embrouille,
pour
mais vous l'aurez
volontaire.
Compris, je suis à l'année charnière où on ne fait plus son service militaire, on est appelé à la journée défense citoyenneté, donc je n'ai rien fait.
Bertrand Soublet ?
Oh ben, moi c'est très simple, je suis rentré à Saint-Cyr à 19 ans, donc forcément c'est la première chose que j'ai fait, c'est mes classes en rentrant dans cette prestigieuse école.
Alors vous avez évoqué cette date charnière, Bénédicte Chéron. Il y a un peu plus de 20 ans, c'était en février 96, Jacques Chirac faisait une annonce qui allait énormément modifier ce qu'est l'armée depuis.
Le président de la République n'a pas employé l'expression « armée de métier » hier soir, mais celle d'armée professionnelle pour expliquer sa réforme de la défense nationale. Il s'agira d'une armée de 350 000 hommes qui sera capable d'envoyer à l'extérieur de nos frontières 50 à 60 000 soldats dans des conditions rapides et organisées. Cette armée-là n'aura plus besoin des appelés. Elle s'appuiera sur une dissuasion nucléaire resserrée et sur une industrie d'armement regroupée et compétitive. Comme la réforme doit s'étaler sur 6 ans, c'est seulement en 2001 que le service militaire, sous sa forme actuelle, sera supprimé. Par quoi le remplacer ? Le chef de l'État propose 2 hypothèses, en privilégiant visiblement la seconde. D'abord, un service civil obligatoire, mais qui risquerait de contredire le droit international et d'être assimilé à un travail forcé. Ensuite, un service civil fondé sur le volontariat, aussi bien pour les filles que pour les garçons.
Voilà les explications de Gérard Courchel, le 23 février 1996 sur France Inter. Avant d'entrer vraiment dans le vif de la discussion, Bertrand Soublé et Bénédicte Chéron, je voudrais savoir si, d'après vous, 20 ans après, vous considérez que la décision de Jacques Chirac était une bonne décision.
Alors, si vous voulez, d'abord, c'est une décision qui a surpris tout le monde, parce que ça ne faisait pas partie de son programme. Et donc tout le monde a été extrêmement surpris en 1996, lorsque ça a été annoncé. En plus, il y a eu, j'allais dire, des discussions à l'Assemblée nationale. Et Philippe Séguin est intervenu en qualité de président de l'Assemblée nationale en disant que ça provoquerait certaines difficultés. Et il n'était pas d'accord. Et tout le monde est passé outre. Ce que personne n'avait mesuré à l'époque, c'est que non seulement il y avait un aspect de défense nationale qui avait été effectivement plus ou moins mesuré, même si on n'est pas tout à fait à 350 000 personnes comme l'avait annoncé le président Chirac à l'époque. Mais en revanche, il y avait des aspects de cohésion nationale qui n'ont jamais été prises en compte. Et c'est ça, c'est là qu'est la difficulté de la disparition du service militaire et de la suspension de la conscription. Ce n'est pas un problème de défense nationale, c'est un problème de cohésion nationale.
Ce qui fait que vous répondez comment alors de quoi ma question? Il a eu raison ou c'était une bonne ou une mauvaise décision?
Je pense que c'est une décision prématurée. Elle n'a pas été suffisamment préparée. Je pense que si elle avait été suffisamment préparée, on n'en serait pas là aujourd'hui et il y a un certain nombre de choses qui auraient été préservées.
Ce qui s'explique quand même dans ces décisions, je ne suis pas certaine que c'était une bonne décision dans l'absolu. Elle répondait quand même il y avait au moins deux arguments relativement logiques, qui étaient le premier qui était l'évolution des menaces. Alors c'est toujours un argument difficile à prendre en compte, parce qu'évidemment le propre de l'anticipation du chef des armées, normalement, c'est de prévoir que les menaces évoluent. Mais là, en l'occurrence, on avait estimé qu'à la fin de la guerre froide, on n'avait plus besoin de lever une armée en masse. Et puis il y avait un autre argument qui était invoqué, qui était de dire que de toute façon, ce qu'on appelait le service national avait été peu à peu vidé de sa substance, qui était vrai, puisque à partir de la fin de la guerre d'Algérie, le service militaire est progressivement devenu service national, qu'on en a diversifié les voies, qu'on pouvait faire autre chose qu'un service militaire, et que, de fait, en 96, au moment où Jacques Chirac fait cette annonce, il y a seulement un garçon sur deux qui fait son service, c'est-à-dire un quart d'une génération, et que cette proportion de garçons qui faisaient son service, en fait, correspondait peu ou prou à une très grande majorité de jeunes garçons qui n'avaient ni les réseaux ni les moyens socioculturels d'échapper au service militaire. Donc on était le rôle de cohésion nationale du service de fait en fait n'existait plus, et se posait la question de l'utilité pour la défense nationale d'avoir encore des appelés, et en fait ces appelés de fait également ne servaient plus à grand chose à la défense nationale, si ce n'est à effectuer des tâches subalternes.
Donc finalement Jacques Chirac a signé la fin de quelque chose.
On était à la fin d'un cycle, et peut-être qu'il aurait fallu réfléchir à ce qu'on prévoyait pour le cycle suivant, et ça n'a pas été fait.
Alors un des arguments avancés par Jacques Chirac à l'époque était celui-ci: la conscription traditionnelle ne répond plus aux exigences d'une armée moderne dans un grand pays moderne. Est-ce que aujourd'hui, en tout cas, cet argument tient encore la route, Bertrand Soublé? C'est-à-dire qu'il y a les guerres ne sont plus les mêmes. Ça demande peut-être une technicité plus importante que celle qui pouvait être demandée à des appelés, et qu'on ne peut plus, de toute manière, envisager un retour du service militaire obligatoire tel qu'il existait il y a encore un peu plus de 20 ans.
Moi, je pense qu'envisager le retour d'un service militaire tel qu'il existait il y a plus de 20 ans, ce serait un anachronisme. Ça serait totalement inutile. Il ne faut jamais vivre dans le passé. La situation que nous connaissions à l'époque n'est plus du tout celle que nous connaissons aujourd'hui. Et donc évidemment, les solutions qui s'offrent devant nous ne peuvent pas être les mêmes. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Cela n'est pas possible. Donc pour tous les nostalgiques qui pensent que le service militaire obligatoire serait la solution et la panacée pour sortir notre pays de la difficulté dans laquelle il se trouve en termes de cohésion nationale, se trompent. Je le dis, je suis un militaire, ça fait 40 ans pratiquement que je suis dans ce métier, et je ne peux pas dire autre chose parce que c'est la voie du bon sens. En revanche,
du bon sens n'étant, semble-t-il, pas la plus partagée, si l'on en juge alors par les enquêtes d'opinion, études CSA, c'était l'an dernier, alors peut-être aussi dans un contexte post-attentat terroriste, où, d'après cette enquête de l'Institut CSA, 3 Français sur 4 favorables au rétablissement du service militaire obligatoire, Bénédicte Chéron.
Oui, il y a 70% des Français. Alors c'était 80% immédiatement après les attentats, on est retombé à 70% un an après, donc il y a déjà une petite modulation de cette donnée. Ce qui est intéressant, ce sont aussi les autres chiffres qui sont autour de 70%, comme toujours quand on prend une étude d'opinion, c'est qu'il y a aussi 80% des Français dans la même étude qui estimaient que les valeurs militaires pourraient être bénéfiques aux jeunes. Et en fait, je pense que ce 80% explique les 70%. Ça veut dire que, en fait, les armées sont devenues une espèce d'institution refuge dont on a l'impression qu'elles ont réussi, elles, à préserver tout ce qui nous semble être perdu par les autres institutions, à tort ou à raison. Et parce que les armées, finalement, ont cette stabilité qui est inhérente à leur fonction, et heureusement qu'elles ont cette stabilité, sinon on serait bien mal en peine d'assurer la défense nationale, elles ont su conserver effectivement des modes de fonctionnement qui nous semblent avoir été oubliés par d'autres institutions. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y a une image des armées qui joue en faveur de 70%. Si, là, dans les trois mois qui suivent l'élection présidentielle, on annonçait un rétablissement immédiat d'un service militaire obligatoire, il est fort probable que 70% chuterait assez vite parce que ça nécessiterait, on peut envisager un service militaire obligatoire, mais ça nécessiterait effectivement des années de préparation, de rétablissement de relations entre l'armée et la société qui sont très abîmées.
Et il y a quelques candidats d'ailleurs qui plaident pour le rétablissement d'un service militaire obligatoire qui ne prendrait pas la forme. Il n'y en a aucun qui voudrait revenir à ce qui existait exactement avant. Mais alors bon, si je commence à en citer quelques-uns, il faudra que je cite les 11, donc ça sera un petit peu fastidieux. On peut trouver ça sur notre site internet, Bertrand Soublet. Mais ça vous paraît donc en tout cas quelque chose d'un peu anachronique de vouloir non pas seulement revenir totalement en arrière, mais rétablir un peu d'obligation dans un cadre qui serait celui de l'armée pour l'ensemble des jeunes. Est-ce que là, déjà, c'est quelque chose qui pourrait davantage vous intéresser, qui semble un peu correspondre à la proposition que vous aviez faite?
Oui, la proposition que j'avais faite, en fait, elle était beaucoup plus complète que ça. La proposition, c'était d'abord 2 mois, parce qu'un mois, c'est un peu juste, et c'était 2 mois, et ces 2 mois venaient, j'allais dire, clôturer un parcours citoyen qui commençait pour les enfants à la fin de l'école primaire, au collège et au lycée. Et donc, pendant tout ce parcours citoyen, il y avait, une progression. Et on apprenait à nos enfants la question de l'autorité avec des interventions de militaires, de policiers, de gendarmes, de magistrats, pour leur expliquer ce qu'est le service public, ce qu'est la nation, ce que chacun d'entre nous doit savoir sur son pays, avec des témoignages, avec des gens qui ont été servir à NOPEX ou ailleurs, et qui permettent d'avoir des références, parce que nos jeunes aujourd'hui n'ont plus beaucoup de références. Et donc ce parcours citoyen se terminerait par ces 2 mois où il y aurait 1 mois de vie en collectivité, goût de l'effort, dépassement de soi, et puis ça nous permettrait aussi de réhabiliter les notions d'autorité qui sont perdues, redonner le goût de l'effort, la confiance, et puis ensuite un 2e mois où on pourrait donner un peu de son temps dans un certain nombre d'institutions, l'hôpital, mais pourquoi pas dans des unités militaires pour les volontaires, pourquoi pas.
Le premier mois, en tout cas, serait encadré par l'armée.
Oui, mais simplement encadré, parce que on ne peut pas demander aujourd'hui au ministère de la Défense de supporter un service national, quel qu'il soit, parce que les armées ne sont pas dimensionnées pour ça. Elles ont perdu beaucoup d'effectifs et budgétairement, c'est strictement impossible. Donc, on ne peut pas faire en permanence avec les armées, la variable d'ajustement de ce qu'on ne peut pas faire par les autres, quoi. C'est juste impossible.
Elles ont d'ailleurs perdu et des budgets et des effectifs et peut-être aussi des lieux pour accueillir,
les jeunes. Mais en fait, moi, je pense qu'au-delà même de la question des moyens, c'est là, je pense qu'on aura une différence de perception du sujet. Il y a une différence de fond sur le rôle des armées dans la société. Moi, je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'on confierait des jeunes pour réapprendre l'autorité et à vivre ensemble à des militaires pendant 1 mois, tout simplement parce que les militaires, ils savent faire ça. Parce que quand ils accueillent des jeunes, pour les former à faire un métier qui est le métier de soldat. Si c'est pour transformer les armées en force d'encadrement pour des réapprentissages fondamentaux de socialisation primaire, on va une fois de plus être dans un processus de banalisation de la fonction militaire qui n'est pas là pour faire de l'encadrement social. En fait, moi, c'est là que j'ai une réticence fondamentale à ce type de dispositif, parce que les militaires ne sont pas là pour jouer ce rôle-là. Et en fait, ils ont joué un rôle social, les militaires, tant que ceux qu'on leur confiait avaient vocation à devenir eux aussi des soldats, ne serait-ce que pour une période courte de 1 an ou 2 ans, selon la durée qu'avait le service militaire à l'époque. Mais à partir du moment où ceux que les militaires accueillent n'ont pas vocation à devenir des soldats, ce rôle social perd de sa substance, perd son objectif final, qui est celui de porter les armes au service de la nation, et donc, peu à peu, perd de son sens.
Vous voulez faire des militaires des agents de Pôle emploi, Bertrand Soulet ?
Non, pas du tout, pas du tout. Mais la difficulté que nous avons, c'est qui va faire ça ? Voilà. Je vois votre regard interrogateur. Qui va faire ça ? Les militaires sont quand même plutôt bien passés. Non, mais l'école, vous savez dans quelles difficultés
les parents
se trouve. Très honnêtement, ma fille est enseignante. Donc, je sais dans quelles difficultés se trouvent les enseignants. On ne peut pas leur demander en plus cela, d'autant que leurs conditions de travail aujourd'hui sont absolument épouvantables. On n'en parle pas beaucoup. J'en parle dans mon livre, là, celui qui vient de sortir. Il y a plusieurs pages là-dessus. Franchement, je me suis intéressé à la question, c'est édifiant. Donc, on ne peut pas demander ça à l'école. C'est vrai que le demander militaires, c'est pas forcément le cœur de leur mission, nous sommes parfaitement d'accord. Mais, ils ont des valeurs, ils ont une manière de faire les choses qui peut être utile à nos jeunes.
Quelles valeurs, par exemple ?
Ben, je pense que le goût de l'effort, la droiture, l'honnêteté, tout ça, ce sont des valeurs qui sont portées par les militaires, qui sont sous-tendues par le métier militaire. Tout le monde le sait. Quand vous discutez avec les Français et les 70% qui disent qu'il faut rétablir le service militaire, c'est exactement pour ces raisons-là qu'ils le disent. Et je l'entends très souvent.
Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on est en train de vouloir, et c'est d'ailleurs, ça explique le débat tel qu'il se pose dans cette campagne présidentielle, on est en train effectivement de voir les armées comme une institution refuge, et de se dire qu'on va pouvoir confier aux militaires le rattrapage de tous les dysfonctionnements d'instances sociales qui remplissent moins bien leur rôle qu'auparavant. On se dit que les familles n'arrivent plus à porter un certain nombre de valeurs dans l'éducation, donc finalement, les militaires pourront le faire. On se dit qu'à l'école, il y a un certain nombre de choses qui ne se font plus ou qu'on n'arrive plus à faire, donc les militaires le feront. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, quand on parle de ces questions, on arrive à un débat politique qui est bien plus large que le seul service militaire, parce que c'est devenu, en fait, moi je parle de fantasme politique, mais c'est vrai que c'est devenu un peu une valeur refuge. Et il faudrait pouvoir reconstruire beaucoup de choses pour qu'effectivement, on n'ait pas à se poser ce genre de questions.
Est-ce qu'on ne peut pas se contenter aujourd'hui du dispositif qui existe, qui est certes sur un temps réduit, dont vous allez tout de suite reconnaître de quoi il s'agit.
La journée de défense et de citoyenneté remplace depuis 2011 la journée d'appel de préparation à la défense, elle-même instituée pour se substituer au service militaire supprimé en 1997 par Jacques Chirac. Les deux grands objectifs de cette journée n'ont quant à eux pas changé.
Le premier consiste en une explication des enjeux de défense, et puis cette JDC répond à un deuxième objectif, un volet cohésion sociale, puisque la JDC permet de détecter des jeunes qui soient en difficulté de lecture ou des jeunes qui seraient éventuellement en situation de décrocheur.
En France, chaque année, près de 800 000 jeunes français accomplissent leur devoir en participant à la journée de défense et de citoyenneté, une journée qui pourrait être remaniée à l'avenir au regard des événements de ces derniers mois.
Voilà, extrait d'un reportage que nous avons trouvé sur TV Fil 78, qui est une télévision régionale, en l'occurrence des Yvelines. Vous voyez sourire à l'évocation de cette journée défense et citoyenneté, Bertrand Soublet ?
Mais oui, je souris.
Ça sert à rien
Non, mais je souris pourquoi ? Parce que mes enfants l'ont faite cette journée et ils m'ont raconté comment ça se passait. Si vous voulez, je préfère pas faire de commentaires à ce micro parce que ça serait désobligeant pour tous ces personnels de la défense qui consacrent beaucoup de leur temps et qui finalement... dans les objectifs qu'ils se fixaient ne sont quasiment jamais atteints. Donc, en réalité, c'est un espèce d'ersatz qui ne sert pratiquement à rien. Très honnêtement, je pense qu'on aurait pu, à la limite, se passer de ça. Parce que ça met dans l'esprit des jeunes une mauvaise idée et une mauvaise image des armées, très clairement. Parce que quand mes enfants sont rentrés et qu'ils m'ont raconté ce qui s'est passé, j'ai eu les commentaires. Et les commentaires des jeunes avec lesquels ils étaient. Je me suis dit, entre ça et rien, il vaudrait peut-être même mieux rien.
Moi, ma crainte, c'est que tous les dispositifs un peu intermédiaires entre service militaire, service national, pendant 1 mois, 2 mois, on ferait un peu de militaire, mais aussi un peu de civique, un peu de citoyen, ne ressemblent en fait qu'à une vaste extension de la JDC. C'est-à-dire qu'en fait, la JDC, qui déjà est un dispositif effectivement contestable dans la pratique, pas dans l'intention, parce que l'intention n'était en soi pas mauvaise, simplement simplement, dans la pratique, on se rend bien compte qu'en fait, cette journée fait rire tous les jeunes. Moi, j'ai des étudiants hein, qui sont passés en général peu de temps avant que je les récupère et qui en retirent effectivement rien ou alors une
image... Ceux qui, à l'époque, se contentaient de faire les 3 jours et qui n'étaient pas ensuite pris dans l'armée, c'était à peu près pareil,
c'est non à peu près pareil. Mais effectivement, en fait, je crains qu'on aboutisse finalement à une extension de la JDC à 1 mois ou 2, qui sera donc beaucoup moins bien acceptée par la jeunesse à qui on imposerait ça, parce que là encore, on aurait un problème de sens et d'objectif qu'on assigne à ce type de dispositif. Et on voit bien que ça ne fonctionne finalement pas très bien, à la fois en termes de définition de contenu et d'effets produits sur la jeunesse.
Donc pour vous, il faut rester, Bénédicte Chiron, sur la base du volontariat et pas être dans une approche d'obligation.
Alors, en fait, je pense qu'il y a deux logiques. Soit on considère qu'on est dans un dispositif d'armée professionnelle et il faut se poser la question des relations entre l'armée et la société parce que ces relations sont importantes, mais il y a des tas d'autres moyens de faire exister ces relations que de rétablir des ersatz de services militaires et de se concentrer sur ces ersatz. Soit on considère qu'on a besoin d'une main-d'œuvre militaire supplémentaire pour la défense du pays, et c'est un vrai débat. On peut considérer qu'effectivement, après tout, il n'est pas complètement utopique de se dire qu'on a besoin de pouvoir avoir une force de réserve facilement mobilisable qui aura été formée de manière conséquente. Mais pour que cette force de réserve soit mobilisable et formée de manière conséquente, il faut un vrai service militaire long. Et en fait, entre ces deux solutions, je crains que tout ce qui est intermédiaire, finalement, soit mal conçu et mal compris, ou mal compris, donc mal conçu.
Alors venons-en justement à cette dimension qui a plus trait aux questions de défense qu'aux questions d'éducation à la citoyenneté. Je rappelle donc que nous posons la question ce soir, faut-il rétablir un service militaire obligatoire? On voit qu'on s'en échappe assez rapidement de cette question un petit peu abrupte, et nous le faisons avec l'historienne Bénédicte Chiron et le général Bertrand Soublet. Comment est-ce que vous répondriez, vous, à l'alternative que posait Bénédicte Chiron, et notamment, est-ce que l'armée aujourd'hui a besoin d'une force qui pourrait être mobilisable parce qu'on est dans un contexte, comme par exemple ce qui se passe en Suède, où on se dit, tiens, voilà, la menace a changé et on a besoin de bras supplémentaires pour l'armée?
Alors, je ne suis pas d'accord avec Bénédicte Chiron. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la gendarmerie, par exemple, on forme nos gendarmes adjoints volontaires en 4 semaines. Et quand ils sortent de ces 4 semaines, ils connaissent déjà les rudiments du métier. Donc, je considère que n'importe... Alors, c'est vrai, ils sont volontaires, ils ont envie d'être là, ils veulent peut-être en faire leur métier, très bien. Mais je rappelle que dans le dispositif que je propose, ces 2 mois, ils viennent en finale d'une préparation qui s'est faite pendant toute la scolarité. Donc, ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Donc, déjà, en 4 semaines, on peut faire du boulot. Là, il s'agit de 2 mois. Et oui, je suis d'accord avec elle. Ça peut être aussi une capacité pour notre pays d'alimenter notre réserve et notre garde nationale. C'est-à-dire que quand on fait un premier mois de ce qu'on peut dire de classe, entre guillemets, mais j'aime pas ce mot parce qu'il est connoté et ça nous ramène au passé. En tout cas, 4 semaines de vie en collectivité où on apprend un certain nombre de choses et un deuxième mois où ceux qui le souhaitent et ceux qui destineraient éventuellement à une réserve ou à la garde nationale, eh bien, leur faire un programme un peu à la carte.
Faut peut-être rappeler d'ailleurs ce que c'est que la garde nationale. Enfin, en tout cas, sous cette appellation, c'est quelque chose d'assez récent. Ça date d'octobre 2016. C'était l'ancienne réserve opérationnelle. C'est quelque chose d'utile pour vous, cette garde nationale, dans la manière dont ça a été mis en place? La question s'adresse à vous.
Oui, en fait, la garde nationale, c'est une espèce de label qui a été posé sur l'ensemble des réserves, en fait, qui existaient auparavant. Ce qui est intéressant,
donc, armée, police, gendarmerie.
Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que, au moment de la suspension du service militaire, ça a été un autre sujet qui a été beaucoup moins médiatique, qui était de dire bien, si on suspend le service militaire, il faut se pencher sur cette question de la réserve parce qu'il faut avoir quand même des forces mobilisables en cas d'évolution rapide des menaces, de nécessité immédiate. Ou de nécessité à moyen et long terme. Et parce que ce n'était pas très médiatique, ce n'était pas très rentable électoralement, personne ne s'est vraiment penché sur cette réserve opérationnelle pendant de longues années, malgré les réclamations d'un certain nombre de responsables militaires.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est sous-dimensionnée, cette réserve?
Elle est largement sous-dimensionnée, parce qu'on plafonne à 40 000, si ma mémoire est bonne, pour les armées, en tout cas. Oui. L'objectif annoncé par Jean-Yves Le Drian en mars 2016 était d'atteindre les 80 000, et on peine à atteindre ces objectifs.
Voilà, pour 2018, hommes et femmes, il faut préciser d'ailleurs, la réserve nationale,
hommes
c'est
et femmes,
pas seulement les hommes.
Parce qu'on revient de très très loin. Et donc ce label de garde nationale, c'est d'abord un outil de mobilisation dans le contexte post-attentat.
Alors nous avions, nous, anticipé dans la gendarmerie, à l'époque où j'étais encore en service, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce dossier-là, et on avait une réserve opérationnelle qui était de grande qualité, qui est toujours d'ailleurs de grande qualité, et qu'on est en train d'essayer d'augmenter au fur et à mesure, mais là aussi, on se heurte toujours aux mêmes difficultés que sont les moyens budgétaires, parce que vous avez toujours des annonces politiques en vous disant oui, on va augmenter la réserve de 10, 20 000, 30 000 personnes, très bien. Une fois que ça a été dit sur les médias, sur les antennes et sur les plateaux, lorsqu'il s'agit de discuter avec Bercy sur les budgets ne sont pas là.
D'autant qu'il y a des incitations financières qui sont avancées aujourd'hui pour inciter justement davantage de volontaires à rejoindre cette réserve. Il y a notamment une aide, alors c'est plutôt pour les plus jeunes, ceux qui ont moins de 25 ans, de cofinancement du permis de conduire.
Absolument.
Permis de conduire qui, alors, dans l'imaginaire de ce que pouvait représenter une époque le service militaire, qui était un des attraits peut-être justement de cette forme de mobilisation. On disait, ben voilà, on peut avoir le permis. D'ailleurs, en général, c'était voilà, j'ai fait mon service, au moins j'ai le permis poids lourd. Oui.
Ah, mais dans les modules que j'avais proposés, dans la manière dont j'abordais ce service national, il y avait effectivement une participation à la formation en termes de permis de conduire, mais pas que, parce que je pense qu'on peut en profiter pour faire des bilans de compétences et faire des compléments de formation pour un certain nombre de jeunes qui ne sont pas véritablement prêts à rentrer dans la vie active, et qu'on peut par ce moyen-là aider à s'insérer dans la vie active de manière plus harmonieuse lorsqu'on leur a donné quelques éléments supplémentaires dans le puzzle. Et je pense que ces 2 mois de service national peuvent aussi aider à faire ça.
Mais ça va à nouveau déplaire à Bénédicte Chéron.
Quand je dis ça, c'est pas les militaires qui vont faire ça. Parce que, évidemment, moi, ce que j'avais dit, surtout, ce qu'il faut éviter, c'est de coller ça comme mission au ministère de la Défense parce qu'il est plus capable de le faire. Il faut que ça soit une démarche interministérielle. Et il faut y associer des cadres de tous les ministères. Il y a des volontaires, il y a des jeunes retraités qui viennent d'autres ministères qui seraient capables de faire ça sans aucune difficulté. Avec un encadrement peut-être militaire, globalement. Mais le gros des troupes, à mon avis, il doit venir de la réserve, de la garde nationale, des volontaires qui sortent de leur période active et qui sont volontaires pour le faire.
C'est là qu'on voit, on n'est pas sur le fond, je pense, il n'y a pas un désaccord profond, mais je trouve, dans la manière dont le débat se pose dans la présidentielle, et c'est vraiment pas pour le coup le général Soubley qui est en cause, à quel point, on a un instrument commode quand on dit service militaire dans le débat électoral, mais pas trop long, parce qu'il ne faut pas trop mécontenter l'opinion publique, en ajoutant du citoyen, parce qu'on emballe avec un paquet cadeau plus flatteur, à quel point on est dans un moment de grande méconnaissance de ce qu'est le fait militaire dans la société française, à quel point on paye des décennies de distance entre la société et les armées, distance qui existait déjà en fait encore quand le service militaire existait encore.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière fois où vous êtes venu dans cette émission, Bénédicte Chéron, mais l'émission l'avait intitulée « Avons-nous perdu l'expérience de la guerre ?» Est-ce que justement le service militaire obligatoire n'avait pas cette vertu que de préparer une société déjà peut-être à se défendre en cas de guerre, mais aussi à adopter les bons gestes quand on se retrouve dans des situations comme on a pu les connaître en 2015 ou en 2016.
Il pouvait avoir cette vertu, mais en fait il l'avait quand même aussi largement perdue dans la mesure où plus aucun appelé, en fait, à part les volontaires, mais on était donc dans un contexte particulier, ne partait remplir des missions militaires, ne partait en opération extérieure. Alors le cas de la gendarmerie est un peu particulier parce qu'on est sur des missions sur le territoire national pour l'essentiel, mais en tout cas pour les armées hors gendarmerie, ça avait été déjà largement perdu. Alors certes, on avait des appelés qui savaient manier une arme, qui savaient pratiquer des gestes de premier secours, et encore, faudrait voir, dans les années 90, je ne suis même pas sûre que c'était encore vrai, mais c'est sûr qu'on a perdu cette dimension-là. Mais en fait, il ne faut pas mythifier le service militaire des années 80-90, parce qu'en fait, on l'avait déjà perdu avant, et c'est vraiment la césure, elle se fait après la fin de la guerre d'Algérie, parce qu'il y a le traumatisme des 15 000 appelés morts en Algérie, parce qu'on n'est plus prêt à payer le prix du sang des appelés à la guerre. Et encore, l'Algérie, c'était des départements nationaux, donc on n'était même pas en opération lointaine. Hein. Mais la césure, elle s'est faite à ce moment-là.
Dans la tribune que vous aviez co-signée, Bertrand Soublé, dans Libération, vous évoquiez, à travers le dispositif que vous essayez de promouvoir, une occasion unique pour diffuser un esprit de défense dans notre jeunesse. C'est-à-dire c'est plus un esprit de défense que des moyens ou des techniques pour apprendre à se défendre.
Oui, je pense que c'est extrêmement important que chacun ait à l'esprit en permanence dans sa vie que nous sommes dans un pays menacé. Nous sommes menacés depuis de très nombreuses années. C'est une, j'allais dire, notre démocratie est menacée. Elle est menacée par d'autres, j'allais dire, des États terroristes qui ont envie de mettre notre démocratie par terre. Et chacun d'entre nous doit être conscient de cela et doit se préparer à ce que malheureusement nous avons vécu dans notre chair, dans notre pays, ces dernières années. C'est plusieurs centaines de morts, plusieurs centaines de blessés. Et je pense que ça va continuer. Je croise les doigts que ça ne soit pas le cas, mais je crains malheureusement que ça soit le cas. Et il faut se préparer à ça. Et on ne se prépare pas à ça avec de l'angélisme. On ne se prépare pas à ça avec de gentils débats comme celui que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Eh bien, il faut aguerrir les jeunes, il faut les préparer, il faut leur dire que la vie, elle n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut les mettre dans la difficulté. Aujourd'hui, quelles sont les occasions dans lesquelles nos jeunes sont dans la difficulté ? Très rarement. Très rarement. Il suffit de regarder autour de nous. Tout le monde a son téléphone portable, tout le monde est en train dans le virtuel et personne n'a conscience des difficultés que la vie réserve. Je pense que l'esprit de défense.
S'agissant des difficultés sociales, je pense que cette conscience, elle existe quand même.
Oui, sociale, oui, parce que malheureusement, il y a beaucoup trop de nos concitoyens qui y sont confrontés dès leur plus jeune âge. Mais en revanche, aux difficultés de la vie, difficultés, j'allais dire, de défense, de sécurité, comme tous ces attentats, toute cette violence à laquelle nous sommes confrontés quotidiennement, je pense que nos jeunes ne sont pas suffisamment préparés.
Bénédicte Chéron.
Oui, alors, je ne sais pas s'ils ne sont pas préparés, parce qu'en fait, ces violences, ils en subissent des conséquences aussi, ils en voient des effets, il y a une violence sociale qui est réelle aussi et qui existe. Je pense simplement que c'est pas... mais en fait, c'est là qu'on voit qu'on n'a pas un désaccord de fond, c'est que je pense que c'est une question éducative bien plus large que celle du service national ou du service militaire ou du service citoyen, quel que soit le nom qu'on colle sur un dispositif, et que c'est pas avec un mois de super scoutisme, parce que c'est souvent à ça aussi que m'ont fait penser certains dispositifs, pas forcément le vôtre en général, mais qui ont été proposés un peu en l'air dans la campagne électorale, et je ne citerai aucun nom pour ne pas vous mettre en difficulté, où on a l'impression que finalement on se dit revenons un peu à une expérience de vie à la dure pour effectivement s'aguerrir. Mais ça s'appelle du scoutisme laïque, un scoutisme citoyen, et pourquoi pas ? Mais alors c'est plus du service militaire.
Sur la question de la cohésion nationale, de la mixité sociale, de ce genre de processus, est-ce que vous feriez l'un et l'autre le lien avec les questions de sécurité ? Est-ce que vous diriez que plus il y a de cohésion nationale ? C'était notamment justement le constat d'un des candidats à la présidence de la République après les attentats, de dire que ces attentats s'expliquaient aussi par le fait qu'il y avait une forme de désespérance sociale et que peut-être qu'il y a davantage de cohésion au niveau de la société. C'est aussi favorable à la sécurité du pays.
Absolument. Moi, je l'ai écrit dans mon premier livre et je l'ai réécrit dans le deuxième. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est que nous ne vivons pas en collectivité au singulier, mais en collectivité avec un S, au pluriel. On a des collectivités qui se côtoient et qui ne se rencontrent jamais. Or, le service national est véritablement le moment où l'on peut faire tomber ses barrières et on peut se faire rencontrer des gens qui... dans la vie normale, ne se rencontrerait jamais. On a beau être blanc, noir, jaune, être catholique, musulman, juif, peu importe. Quand on partage un moment de sa vie, et vous pouvez la poser la question à ceux qui ont fait le service militaire. Alors, encore une fois, c'est service militaire, c'est autre chose. Mais n'empêche que ils ont partagé un moment de leur vie, dans des moments difficiles, où ils ont fait des efforts, où parfois ils se sont aidés, entraînés. Et là, comme par hasard, toutes les barrières tombent. Eh bien, c'est exactement ça c'est vraiment le bénéfice maximal d'une affaire comme le service national, c'est celui-là. C'est-à-dire de faire se rencontrer des personnes qui dans la vie normale, ne se rencontreraient et n'auraient aucune chance de se rencontrer.
C'est vrai que ces lieux de mixité sociale, ils n'existent plus vraiment, Bénédicte Chéron. Ça devrait être l'école, mais on sait bien que l'école n'est pas particulièrement exemplaire aujourd'hui en France en la matière.
C'est effectivement une difficulté de l'école et pas des moindres. Je vais repartir en arrière dans l'histoire parce que souvent, elle nous instruit de bonnes réalités, cette bonne vieille science historique. En 1870, après la défaite contre la Prusse, c'est le moment où on formalise ce fameux service militaire qui reste inscrit dans notre mémoire comme un pilier de notre vie républicaine, parce qu'en fait il est créé avec la Troisième République après la défaite contre la Prusse. Le premier objectif de la création de ce service national obligatoire et universel, c'est d'abord la défense de la nation par les armes. Et parce qu'il y a cet objectif commun très concret qui est à un moment de porter les armes tous ensemble et de risquer sa vie et de pouvoir tuer tous ensemble, il y a une cohésion, il y a un brassage social qui se fait parce que tout le monde est à égalité devant cet objectif concret. Je pense qu'on ne crée pas de cohésion nationale simplement avec des mots, on peut pas apprendre aux gens à vivre ensemble avec comme seul objectif de vivre ensemble. Il faut un objectif supérieur, il faut une direction, il faut un but, et je crois vraiment que si on réfléchit à ces dispositifs-là, il faut d'abord réfléchir au sens qu'on leur donne.
Mais de la même manière que vous disiez tout à l'heure, le service militaire obligatoire dans les années 90, et il ne concernait déjà plus qu'un jeune sur deux, est-ce que là aussi, en termes d'objectifs de mixité sociale, c'était quelque chose qui avait énormément perdu de sa force ?
C'était quelque chose qui avait perdu de sa force, mais parce qu'après 1962, parce qu'on n'assume plus collectivement le fait que des appelés portent les armes pour la nation, on diversifie les voies pour éviter justement, pour permettre aux appelés de faire autre chose. Parce que finalement, on sait bien qu'on n'en verra plus jamais un appelé se battre les armes à la main parce qu'on n'est pas prêt à en payer le prix et à l'assumer. Et c'est cette diversité de voies dans le service national qui fait que peu à peu, chacun se crée son service à la carte.
Alors on parle du rétablissement du service militaire, mais c'est un petit peu une erreur de le faire de cette manière, puisque le service militaire existe toujours. Bertrand Soulet, Bénédicte Chéron, il y a un service militaire volontaire. Ça, je dois dire que j'ai découvert ça à la faveur de cette émission. Ça a été mis en place en 2015 en métropole. Je précise en métropole parce que c'est une adaptation d'un dispositif qui s'appelle le service militaire adapté, qui existe pour l'outre-mer et qui est un dispositif militaire d'insertion professionnelle. Absolument. Est-ce que ça, c'est un bon dispositif pour vous, Bertrand Soublé? On est loin quand même des objectifs de défense. Là, on est purement dans l'insertion professionnelle.
Oui, bon, le service militaire adapté est un dispositif qui existe depuis très longtemps et qui date de la conscription. Donc, et le SMV, c'est une adaptation du SMA dans des conditions, moi, que je ne trouve pas très cohérente, parce qu'en réalité, on dit service militaire volontaire, mais il n'a rien de militaire, absolument rien.
À part l'encadrement, peut-être.
Oui.
À part l'encadrement, mais on recrute en fait des volontaires qui se forment à encadrer les volontaires qui vont venir au SMV. Donc on est un peu dans le système du serpent qui se mord la queue. Et il n'y a même plus dans le service militaire adapté qui a été créé en 61, si je me souviens bien, au moment justement où se pose la question des évolutions du service national, il n'y a même plus dans le SMV de maniement élémentaire des armes. Ça veut dire qu'il n'y a aucune arme, simplement ils sont en treillis kaki et ils font de l'insertion professionnelle.
Donc, le SMV, finalement, c'est un dispositif, j'allais dire, plutôt à connotation politique.
Alors après, ce sont des dispositifs qui peuvent avoir leur utilité. Le SMA en Outre-mer a un rôle qui est très important. Le SMV peut avoir un rôle, mais en fait, les armées ne peuvent jouer ce type de rôle qu'à la marge, à la fois en termes d'effectifs et puis de manière limitée dans le temps. On ne peut pas se dire qu'on va étendre le SMV à l'ensemble d'une classe d'âge pour 600 000 jeunes à 800 000 jeunes par an.
En matière d'expérience professionnelle, ce sera la conclusion de cette émission. Quel peut être l'intérêt d'un service militaire et de ce qu'était le service militaire obligatoire? Écoutez comment on en parlait, comment on le chantait même d'ailleurs dans les années 70.
Tu vas apprendre à démonter des mitraillettes, à tuer le temps dans la bière et les cigarettes, à ramper dans la flotte comme un crocodile. Chose utile dans la vie civile et à claquer des talons devant le moindre galon. Mon colon, nous nous régalons et va petit soldat.
Voilà. Apprendre à démonter des mitraillettes, ben voilà, une des utilités peut-être. Service militaire, évidemment, chanson de Joe Dassin avec énormément de second degré. Je la connaissais pas.
Mais moi non plus.
Vous non plus ?
Moi non plus. Et je vous remercie parce que j'ai une affection particulière pour Joe Dassin.
Ah ben voyez.
Écoutez, on partage au moins ça, cette affection pour Joe Dassin, donc on va tous aller écouter cette chanson.
Voilà, découverte totalement par hasard au gré de la documentation pour l'émission de ce soir. Merci beaucoup en tout cas, Bertrand Soublet et Bénédicte Chéron, d'avoir participé à cette discussion. Vous pouvez poursuivre et réécouter sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Isolde Sicard, Mélanie Chalondon, Fanny Richer, Louise Fuseau, émission réalisée par Anne-Laure Chanel avec à la prise de son Jean Frédérics. Demain, suite de notre semaine de débats de société, avec la question de la fin de vie, faut-il autoriser l'euthanasie ?